If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Low From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs, qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. En 2018, après un licenciement, Clémence fait une dépression. Aujourd'hui, elle vit de ses rêves en ayant créé une méthode pour trouver un sens à sa vie. Clémence Vandel était une femme au parcours des plus classiques. Des diplômes, un joli plan de carrière, un salaire confortable. Or, le monde du travail est parfois loin d'être tendre. Un beau jour, entre deux réunions, elle se fait violemment licencier sans aucun motif valable, alors qu'elle a deux enfants et qu'elle signe pour acheter sa maison le lendemain. Elle perd complètement confiance en elle et met des mois à s'en remettre. Contrainte par ses proches, elle accepte de s'arrêter et de prendre soin d'elle. L'après est plus joyeux. Elle découvre un peu par hasard le magnétisme et plusieurs autres pratiques pour trouver un sens à sa vie. Elle crée notamment la méthode AM, qui prend en considération la vie professionnelle et la vie personnelle pour trouver sa voie et améliorer son bien-être. Pour qu'aucun de nous ne subisse sa vie et déploie ses ailes. Moralité, nous ne sommes pas destinés à occuper un emploi alimentaire, mais plutôt à trouver un travail qui nous passionne, qui nous motive à nous lever chaque matin avec une énergie débordante. La réalité finit toujours par nous rattraper, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Clémence Vandel n'avait jamais témoigné sur un podcast. Je suis fière d'avoir gagné sa confiance et de vous publier cet épisode. Belle écoute. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah très bien, je suis ravie d'être ici et ravie d'enregistrer un podcast du coup.
De même, ton parcours et ta méthode sont très intéressants, donc je suis ravie de recueillir ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Alors Clémence, du coup, je viens d'avoir 36 ans, je me suis lancée à mon compte il y a maintenant, en fait au mois d'août dernier. Voilà, donc dans tout ce qui est magnétisme, pratique, je vais dire un peu bien-être, etc. Enfin, c'est un peu tout ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Donc,
justement, avant de rentrer en détail dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire qui peuvent nous aider à te connaître et qui ont influencé la femme que tu es aujourd'hui?
Alors, du coup, j'ai eu un parcours donc très classique. J'ai fait des études un peu comme tout le monde. Alors, j'étais pas très bonne à l'école. Et puis, j'étais pas forcément poussée non plus à être très bonne. Mes parents étaient très contents quand je ramenais un 10. Ça m'a jamais vraiment très intéressée. Finalement, j'ai quand même eu la chance, on va dire, de pousser mes études un peu plus loin. Mes parents m'ont poussée, par contre, à faire une filière générale. Ensuite, j'ai fait une année de fac. Bon, c'était parce que je savais pas quoi faire de ma vie. ce qui est un peu pour moi, je trouve, le problème de l'école, c'est qu'on ne sait jamais quoi faire de sa vie. On est un... sauf si effectivement, quand on a des parents médecins, des choses comme ça, bon, on est peut-être un peu plus orienté. Et encore, si ça nous plaît. Moi, c'était pas le cas, et je suis sortie du lycée sans savoir quoi faire. Donc j'ai fait une fac éco gestion, on va dire, comme mon frère finalement. Je suivais tout ce qu'il faisait de toute façon, donc c'était très bien. Ça a été vraiment un coup d'épée dans l'eau parce que ça m'a servi à rien. J'ai travaillé en parallèle parce que par contre, j'ai toujours travaillé en parallèle. J'ai vendu des chaussures, des vêtements, etc. Donc j'ai toujours fait ça. Par contre, à la fin de mon année de fac, j'ai dit à mes parents que je souhaitais partir en école de commerce, mais à Lyon. Pareil, une année un peu où là, j'ai découvert ce que c'était que de vivre loin de chez ses parents. Donc ça a été un peu une année qui n'a pas fonctionné. Mes parents m'ont dit que bon, l'école de commerce, on allait s'arrêter là parce que ils avaient pas une situation qui leur permettait de suivre parce que forcément appartement, etc. J'ai voulu faire de l'alternance que j'ai pas eu tout de suite, mais j'ai toujours eu en tête de toujours vouloir travailler, gagner de l'argent et en fait avoir surtout mon autonomie et mon indépendance. Ce que j'ai obtenu après, et en fait j'étais avec des gens qui étaient faisaient des études, donc en fait je me suis pas posé la question, j'ai suivi le chemin et j'ai fait des études un peu plus difficilement qu'eux parce qu'ils étaient en école et donc ça a été jusqu'au bout. Moi je suis passée par un BTS, une licence, un master 1 et mon master 2. Du coup je suis revenue à Paris où j'ai rencontré donc mes copines, on va dire, aujourd'hui qui sont toujours là, dont une qui m'a aidée à en être là où je suis aujourd'hui, pour au final, une fois sortie de l'école, j'étais en alternance, c'était plus facile, mais avoir un boulot, continuer. Le premier travail que j'ai eu, c'était un CDD. Au bout de 18 mois, ça s'est arrêté. Pas de problème, j'ai continué, j'en ai trouvé un autre. Là, ça n'allait pas. Pas de souci, j'en ai trouvé un autre. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais être au chômage, si j'allais avoir tout ça. C'était comme ça. J'étais limite, j'ai envie de dire, formatée. Bon, t'as toujours une petite part de toi qui te dit « Est-ce que tu es bien au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes, etc. ?» Qu'on n'écoute absolument pas, évidemment, parce que ça nous intéresse pas.
C'est la petite voix qu'on repousse.
C'est ça. Ouais, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle nous mette une petite baffe et qu'elle nous dise « Par contre, j'existe. » Donc, voilà. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à ce que je me prenne vraiment... une très grosse claque, parce qu'au bout d'un moment, quand ça va plus, ça va plus, quoi.
Exactement. Et c'est justement cet aléa qui va introduire tout ce que tu mets en pratique aujourd'hui et tout ce qui fait que tu accompagnes les autres. Ce job dont tu m'as parlé en off qui t'envoie du rêve, mais avec lequel tu te sens rapidement désaligné et duquel tu te fais renvoyer. Est-ce que tu peux me raconter?
En fait, je me suis vraiment fait débaucher. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que la nana qui m'a débauchée m'a appelée hier. Donc je me suis dit, tiens, c'est un petit signe ça aussi. Mais je me suis fait débaucher pour être très claire, pour un boulot qui était payé 1000 euros net de plus et qui était un quart d'heure de chez moi. J'ai pas réfléchi longtemps, même si la boîte où j'étais, c'était vraiment tout ce que j'aimais, etc., le contexte familial et tout. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est un nouveau challenge. Et à un moment donné, faut aussi oser. Donc, j'ai accepté, j'ai passé les entretiens, évidemment, mais j'ai accepté, j'y suis allée. J'avais bien précisé que je n'étais pas spécialisée dans la charpente, en l'occurrence, dans le métal, certes, mais pas dans la charpente. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, on te formera, etc. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était mon portefeuille client. Donc, j'ai joué le jeu, et j'y suis allée. Et c'est là où, j'ai fait le tour de France pendant un mois. Bon, ok, donc j'avais 6 mois d'essai, enfin 3+3, pendant un mois. Donc c'était un mois un peu à rien faire, à découvrir, on va dire, à s'installer, sachant que j'étais à Paris, que le siège était à Toulouse, donc j'avais quand même beaucoup de trajets, etc. Mais très bien, la personne avec qui j'étais, on a beaucoup discuté, etc. Très bien, donc je le considérais pas comme un ami. Évidemment, mais après avoir passé un mois ensemble, c'était un minimum.
Tu peux te dire qu'il y a des liens qui se créent et une relation de confiance.
Voilà. Je lui faisais confiance. Effectivement, je lui faisais confiance. C'était moins N+1, mais il avait mon âge, mais je lui faisais vraiment confiance. Une fois que ce tour, en fait, est passé, ils m'ont laissé sur Paris. Ils étaient tous à Toulouse. Là, j'ai dit, c'est super cool, mais moi, je peux pas faire des appels d'offres, etc., toute seule. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète, on va monter. Ils sont jamais montés, ou peut-être une fois en 6 mois. Je me suis retrouvée un peu toute seule. Je faisais des appels d'offres, mais je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Bref, mais j'ai laissé couler. Je me suis dit, bon, ça va venir, t'inquiète, etc. Sauf qu'en fait, plus ça allait, plus ça se dégradait. jusqu'à ce que, donc au cinquième mois, là, il est monté. J'ai vu qu'il était pas très bien le matin, mais voilà, j'ai laissé couler. Hein, on a tous des problèmes dans la vie. Et en fait, je me suis retrouvée à faire le premier rendez-vous client, à aller à Paris, à déjeuner avec lui, à Bercy, et sur cette magnifique esplanade de Bercy, en allant en plein milieu, en allant du coup au prochain rendez-vous, il m'arrête et il me dit « Mais en fait, on va mettre fin à ta période d'essai. »
La claque.
Ah bah là, je signais pour ma maison le lendemain. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais je signe pour ma maison demain. » Donc en fait, c'était plus ça qui m'avait inquiété qu'autre chose sur le coup. Donc je sais que c'était pas de sa faute personnellement, que lui aussi, ça a dû aussi l'impacter de devoir faire ça, et je l'entends, sauf que bon, sur le coup, c'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses. Et voilà, on en est finalement resté là, parce que bon, j'ai été gentille, je l'ai raccompagné à l'aéroport quand même, donc jusqu'au bout, vraiment, je me suis donnée, et ça s'est terminé comme ça, et la claque a été tellement monstrueuse pour moi, que vraiment, j'ai mis des mois à m'en remettre. Je pense que ce qui m'a sauvée dans l'histoire sur le coup, c'est parce que j'avais on achetait la maison, donc voilà, j'étais super contente de ça, j'avais enfin mon chez moi, etc. C'était vraiment important.
T'étais prise dans d'autres projets, quoi.
Ouais, et quand je suis rentrée le soir, bah machinalement, mais même je me suis dit bah ok, très bien, donc là j'ai un mois devant moi, donc j'ai un mois pour trouver du boulot, j'ai un mois pour me remettre, etc., pour qu'il y ait pas de carence, voilà. Et c'est là où en premier lieu mon conjoint m'a dit écoute, t'es peut-être pas pressé, quoi, enfin tu peux aussi prendre le temps de réfléchir. Donc ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé de ma vie, réfléchir. Et ma mère m'a dit, écoute, je pense que là, tu devrais l'écouter. Et en l'occurrence, je pense que tu devrais vraiment prendre soin de toi. Parce que vraiment, je pense qu'elle a senti que là, la claque avait été vraiment très très dure pour moi à encaisser. Donc j'ai dit ok. Et je me suis inscrite pour la première fois au chômage. J'ai découvert Pôle emploi, qui maintenant est donc France Travail, mais j'ai découvert Pôle emploi à ce moment-là. Et je dois avouer que ça a été vraiment bénéfique, en fait.
Bah oui, parce que dans le vide peut se loger beaucoup d'angoisse. Moi, j'ai connu des périodes de vide, donc je sais de quoi je parle. Peut se loger beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses qui vont naître à toi et que tu ne soupçonnais pas. Et justement, tu te tournes vers le magnétisme et les soins énergétiques pour guérir tes maux au départ et nos maux. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer justement cette découverte ?
Ma maman était, je ne crois pas dire de bêtises, mais à ce moment-là, elle était sophrologue et je crois qu'elle commençait tout juste à faire sa formation en hypnose. Donc, elle était déjà là-dedans. Donc, sachant que j'avais été sa cobaye, etc., c'est vrai que je baignais quand même un petit peu là-dedans. Et évidemment, elle m'a pris en charge aussi quand il y a eu tous ces soucis-là. J'ai pris le temps du coup de prendre soin de moi. J'ai fait des séances avec elle. J'ai fait aussi avec d'autres personnes parce qu'elle, c'est la famille, donc il y a quand même une limite de temps en temps à ne pas dépasser. Donc j'ai aussi été voir d'autres personnes et je suis allée voir donc entre temps j'ai une amie qui est revenue donc de l'étranger qui s'était installée à son compte pour faire exactement la même chose et donc que je suis allée voir et je lui ai dit écoute je te fais confiance à toi. Donc, aide-moi. Et en fait, c'est parti de là. Et elle faisait aussi tout ce qui est Reiki. Et de fil en aiguille, à force des séances que j'ai faites avec elle, je me suis dit, est-ce que moi, sachant qu'elle faisait en fait des initiations au Reiki, est-ce que tu penses que je pourrais faire ça pour me soigner moi-même ? Enfin, me soigner, c'est un grand mot, mais pour me prendre soin de moi. Et elle m'a dit, bien sûr. Elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, c'est une très bonne idée. Vas-y, fais ça. Donc, très bien. Et j'ai fait ça. J'ai fait donc le premier. Donc, il y a plusieurs niveaux, mais j'ai fait le premier, le deuxième niveau avec elle parce que ça m'a plu. Sachant que je n'avais donc toujours pas, j'étais restée vraiment, j'avais pas toujours repris le travail. C'est, enfin, le monde de l'entreprise, je dirais, parce que je travaillais avec mon conjoint pour sa société. Donc, j'avais toujours un pied dans le travail, mais pas en tant que salarié. Pour être très honnête, même aujourd'hui, je pense que je serais incapable de retourner en entreprise. Alors, si je devais évidemment nourrir ma famille, il y a pas de souci, mais sinon, si j'ai le choix, je n'y retournerai pas. Ça a continué comme ça. J'ai eu l'opportunité, du coup, derrière de faire des choses par moi-même. Et du coup, en arrivant, dans le sud, mon ami en fait qui a fait la formation que j'ai faite m'a dit, écoute, si tu veux, vas-y, fais-la. Et quand j'ai regardé, ils étaient basés à Aix. Donc, j'ai dit, là, si c'est pas un signe, Donc j'étais un peu voilà. Et en fait, c'est vrai que ça m'a, ne serait-ce que la première, je me suis dit ok, c'est bon, je suis à la bonne place. Donc j'ai fait tout ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que je faisais pas tout ça pour faire les humains. Je faisais tout ça pour faire sur les chevaux.
D'accord.
Parce que mon conjoint est dans les chevaux de course. Et en fait, n'ayant plus foi en l'humanité, hein, clairement, depuis cet épisode-là, j'avais vraiment pour but de faire ça que sur les chevaux. Donc évidemment, j'ai mes parents, j'ai mon conjoint et tout, mais vraiment de pas recevoir des gens, de pas, j'avais vraiment pas envie. Et en fait, pendant cette formation, j'ai vraiment rencontré, je pense, un noyau dur qui m'a redonné foi, finalement, ouais, en l'humanité, où je me suis dit, en fait, si, il y a quand même des gens gentils, qui sont vraiment gentils, mais vraiment. Voilà, qui n'ont pas de vis cachée, qui sont pas, qui sont pas un peu tordus ou autre. Non, non, c'est. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est même eux. Ils m'ont dit, pourquoi tu le fais très bien là sur des gens, pourquoi tu le ferais pas? Et j'ai dit, ok. Donc je me suis lancée comme ça sur les gens.
Est-ce que tu peux m'expliquer juste pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous écoutent, ce que tu faisais concrètement en fait sur les chevaux, et ensuite pour qu'on comprenne aussi comment tu as bifurqué sur l'humain?
Le magnétisme, c'est. C'est une technique de... En fait, on en a un peu tous en nous. C'est comme un... J'ai envie de dire, c'est comme un sixième sens qu'on développe ou pas. Mais en soi, on l'a tous en nous. C'est quelque chose qui part... Alors, ça peut être avec la position des mains, etc. Mais tout le monde le fait pas forcément comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui font les choses différemment, etc. Moi, en l'occurrence, je fonctionne comme ça. C'est vrai que c'est par les mains, l'imposition des mains. C'est vraiment un ressenti qu'on a sur, entre guillemets, le mal de la personne. Bon, alors, en l'occurrence, de l'animal, mais le mal de l'animal, le mal de la personne, on le ressent. Il y a des personnes qui vont le ressentir, c'est-à-dire que s'il a mal à l'épaule, qui peuvent potentiellement le ressentir sur eux, sur l'épaule, par différentes, ça peut être des picotements, ça peut être de la chaleur, du froid, plusieurs sensations. Et là, on sait qu'on doit travailler, donc, sur cette zone-là. Moi, je me dirige vers la zone, donc, en l'occurrence, concernée. Et par intention, en l'occurrence, on essaye en tout cas d'enlever du coup le mal ou je dis n'importe quoi. C'est ça peut tu alors ça je parle donc pour des mots physiques, et après ça peut être aussi un peu plus élaboré, je dirais, donc un peu plus psychique, où là ça peut être effectivement j'ai des personnes qui sont venues parce que elles étaient entre guillemets perdues dans leur vie, où elles savent plus où elles en sont, elles savent plus si, enfin celle que j'ai eue, celle à qui je pense, c'est, elle était perdue par rapport à sa mère, elle avait l'impression que sa mère l'envahissait complètement, qu'elle était complètement à son crochet, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Et c'est voilà, c'est une manière en fait simplement de d'amener les choses parce qu'on a un recul évidemment sur la situation, mais on amène les choses différemment. On fait un nettoyage justement de toutes les pollutions, de toutes les pensées négatives, de tout ce qui nous pollue en fait au quotidien et qui fait qu'à un moment donné, on n'avance plus correctement. Mais voilà, c'est chasser ce négatif-là pour justement retrouver une sensation de, j'ai envie de dire, de légèreté au quotidien et savoir pourquoi on va travailler, pourquoi on se lève, pourquoi on est là, quoi, clairement. Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi je suis fait, en fait? Parce qu'on en revient à ça, mais c'est vrai que, voilà, pourquoi je suis là.
Et donc, tu peux intervenir donc, oui, via le magnétisme et les soins énergétiques sur la confiance en nous, la perte de poids, la sexualité, l'angoisse, les douleurs, les prises de décision. Donc, tout un panel de mots, finalement. Si on prend, par exemple, un sujet délicat comme la sexualité, quelle serait ton approche?
Alors la sexualité, alors d'abord faut voir, c'est d'abord voir avec la personne en fait où est le problème. Je dis n'importe quoi, si c'est de la libido, si c'est un problème dans son couple, si c'est des choses comme ça, on se rend compte quand même qu'en parlant déjà dans un premier temps, ça décortique beaucoup le problème. Et en fonction du problème, c'est juste, c'est de par ce soin-là, ça permet vraiment déjà de lâcher prise. Parce que la plupart du temps, alors pour la sexualité en particulier, en général, c'est qu'il y a quand même l'esprit qui prend une grande partie du problème. Et quand on lâche prise, c'est vrai qu'en général, ça aide beaucoup à prendre conscience que en fait, il n'y a pas forcément de problème dans l'immédiat. Je parle pour ça. En général, c'est surtout pour la libido. Il n'y a pas forcément de problème dans un premier temps. C'est juste qu'on a la tête tellement prise, on a tellement la tête dans le guidon avec la routine, etc., que c'est parfois compliqué de rentrer, de dire bon bah voilà, maintenant on va passer à ça, on va bon alors attends, comment on va faire et quand mais à quelle heure mais après le film avant le film pendant la pub parce que bon voilà, parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie. Il faut aussi voilà, c'est aussi comprendre que on n'est pas des machines et qu'à un moment donné, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment lâcher prise, c'est pas grave. Quand il y a des problèmes un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus importants, en fait c'était un homme en l'occurrence, c'était plus une guerre avec son ego. Bah, il voulait montrer que, alors qu'en fait, bah voilà, toi aussi t'es qu'un homme, c'est pas grave. Mais je comprends que les hommes, ça, voilà, ils aient besoin de ça pour s'exprimer, pour montrer que ils sont là, ils sont présents. Mais voilà, c'est juste pour certaines choses, c'est juste montrer qu'on peut lâcher prise et qu'on peut laisser couler, c'est pas grave.
Tu as fondé ensuite la méthode donc AME, AME, qui prend en considération la vie professionnelle et la vie personnelle pour trouver sa voie, améliorer son bien-être et donner un sens à sa vie. Est-ce que tu peux m'expliquer justement le point de départ de la création de cette méthode et quels sont ses principes fondamentaux ?
Alors la méthode AME, c'est parti d'une discussion avec une amie qui a fait ma dernière année d'études avec moi, où donc elle est dans une grande maison de luxe, et elle me racontait toutes ses histoires, et je lui dis tu vois, quand je t'entends, finalement le monde de l'entreprise me manque. Et je lui dis, d'un autre côté, c'est vrai que je dois avouer que toutes les autres histoires que tu peux me raconter, ça ne me manque pas du tout. Et en discutant comme ça, elle me parlait en fait donc d'une personne avec qui elle bosse, qui en l'occurrence a des soucis. Elle en peut plus, ça fait 6 ans qu'elle est là, mais elle a envie de changer. Que bah il faut refaire son CV, il faut refaire sa lettre de motivation, il faut être motivé tout court d'ailleurs, et il faut aussi faire des entretiens d'embauche, ce qui aujourd'hui quand même reste compliqué quand ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et puis surtout, pourquoi faire ? Et je dis moi potentiellement, c'est vrai que c'est des gens comme ça qu'il me faudrait. Je dis en plus, ça me permettrait de garder un pied dans l'entreprise parce que voilà, c'est le monde de l'entreprise, etc. Et d'un autre côté, de les aider en fait, de les aider dans cette transformation. Et elle me dit, mais pourquoi tu le fais pas ? Oui, je sais pas. Enfin voilà, c'est parti vraiment de rien. On a discuté comme ça, comme on le fait très souvent, et c'est parti de comme ça. Et ça a cogité toute la nuit. Et j'avais donc du temps devant moi, j'ai envie de dire. Et le temps de tout écrire, de tout faire, de tout produire finalement, d'arriver à rassembler toutes mes idées, de faire en sorte justement de trouver en fait une façon de faire pour justement aider des personnes qui aujourd'hui ont cette réflexion-là de dire « Mais en fait, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas où j'ai envie d'aller. Aujourd'hui, mon travail est alimentaire. » Et je trouve ça, moi, dramatique en fait d'en arriver là, alors qu'on est fait pour quelque chose, on n'est pas fait pour être dans un boulot alimentaire, pour faire métro, boulot, dodo, non. On est fait pour avoir un travail qui nous anime, de se lever le matin en se disant « génial, je vais travailler ». Parce que oui, ça existe, mine de rien.
Bien sûr.
Donc, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais il y a tellement de gens ». Et donc, évidemment, j'ai pris à partie mon amie en lui disant « mais t'es sûre et tout ?» Elle m'a dit « mais il y a tellement de monde ». Elle me dit « mais tu te rends même pas compte ». Et du coup, voilà, j'ai continué là-dedans, j'ai persévéré, j'ai pris des cobayes du coup pour être sûre que voilà, je sois aussi en cohérence avec la réalité, parce que là, c'était que du fictif. Du coup, grâce à ma mère aussi, j'ai eu des cobayes parce que ses clients, vu que je le fais à distance, ses clients, même s'ils sont sur Paris, finalement elle me dit mais j'ai quelqu'un justement qui est dans cette situation là, profites-en. Donc elle m'a fait profiter de ses clients pour justement on va dire me faire la main et arriver à trouver une cohérence en fait entre tout ce que j'avais écrit et la réalité, et ça a fonctionné.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode rapide. Dès la deuxième séance, on sait ce pourquoi on est fait. Est-ce que tu peux revenir avec moi et avec nous, avec ceux qui nous écoutent, sur le déroulement des séances et sur finalement les différents outils que tu utilises?
Je me suis basée en fait sur le bilan de compétences. Je me suis dit un bilan, parce que quand j'ai été au chômage, évidemment, la première chose que j'ai voulu faire, c'est le bilan de compétences.
Ouais.
Que je n'ai jamais pu faire d'ailleurs avec Pôle emploi, un bilan de compétences, au passage, parce que ils ne le font pas. Ça coûte, donc évidemment. Donc moi, j'avais donc tout ce qui est compte professionnel de formation, etc. Mais pas du tout. En fait, ils ne l'acceptaient pas. Pourtant, c'était certifié et tout, mais ça n'allait pas. Il fallait de toute façon que je mette de ma poche, etc. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, ok. Bref, je n'en ai jamais fait.
Et le mal du bilan de compétences proposé par Pôle emploi et par beaucoup de formateurs, c'est que ça prend en compte, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que l'aspect professionnel. Cette partie personnelle est complètement effacée et donc du coup manque cruellement parce qu'on peut pas réussir professionnellement si on oublie ce pan personnel, c'est impossible.
Bah, le seul exemple que j'avais en fait moi, c'est mon père quand il est tombé au chômage. Au bout d'un moment, évidemment, il a demandé un bilan de compétences. Alors je crois même qu'au final il l'a fait par lui-même hein, d'ailleurs. Il a fait un bilan de compétences pour qu'à la fin on lui dise très bien, bah vous êtes fait pour entreprendre. Donc bon, bah alors avec ça, on est bien. Ouais. Donc on va entreprendre, mais dans quoi ? Ah bah ça, ça me concerne pas. Hein. C'est vous qui avez les idées, c'est vous, c'est votre tête, c'est machin. Bah vous faites ce que vous voulez. Là, ce que je propose, c'est d'abord donc un premier rendez-vous pour voir ce qui se passe en fait, pourquoi la personne en arrive là, et surtout quel a été le déclic pour justement passer le cap. Parce que c'est quand même le plus important, c'est de passer le cap et justement de dire ok, je me prends en main, de savoir. Du coup, en termes personnels, si on est soutenu. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on oublie, c'est que, et j'ai eu le cas, c'est que qu'on souhaite changer de travail ou qu'on change de travail, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand on a un conjoint qui rentre à la maison, qui de toute façon, t'es une bonne à rien, ce que tu fais, c'est la merde et de toute manière, tu n'y arriveras jamais. Ben, je vois pas trop l'intérêt en fait de se prendre la tête à faire un bilan de compétences, changer de travail. Donc quand je dis changer de travail, c'est voilà, c'est refaire son CV, lettre de motivation, faire les entretiens, etc. Pour qu'au final on rentre à la maison et qu'on entende ça. Voilà, je trouve ça un peu délicat. Et je me suis dit, alors ça c'est un exemple parce que je l'ai eu, mais il y en a plein d'autres. Il y a les enfants aussi. Il y a un moment donné, on a aussi un planning quand on a des enfants. Bah, qu'on a envie de tenir, on a peut-être envie d'aller chercher ses enfants à l'école ou de les déposer ou voilà. C'est des choses comme ça à prendre en considération. Évidemment, c'est pas de la magie, hein. Il faut que ce soit aussi en corrélation avec la réalité, mais c'est trouver cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, on est, OK avec ce qu'on fait au quotidien. On arrive à jongler entre le pro, le perso, où tout, où on est soutenu, et où on arrive à faire quelque chose qu'on aime. Donc là, la première séance permet donc effectivement de, voir tout cet aspect-là, de prendre tout cet aspect en considération. En général, la première séance fait beaucoup réfléchir parce qu'on va parler aussi donc de ce qu'on aime de manière personnelle parce que finalement on a aussi des passions. Enfin moi j'ai découvert les personnes que j'ai eues, j'ai découvert des choses de fou qui adoraient faire la pâtisserie, qui adoraient retaper des meubles anciens, etc. Mais vraiment des passions. On se dit mais aujourd'hui tout le monde le fait sur revendre des meubles, faire même vendre des gâteaux, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça amène vraiment à une réflexion personnelle qui normalement est quand même assez importante. Ou quand ils arrivent à la deuxième séance, ils me disent oh là là, je sais plus où j'habite en fait.
Non, ça c'est la réflexion finalement de se dire que une passion peut être transformée en projet et en business.
Ouais, aussi. Et le but c'est d'envoyer tellement d'informations. Que la personne va plus savoir en fait où elle en est, elle va se dire ah bah oui je pourrais faire ça, mais oui mais il y a ça aussi. Et en fait à la deuxième séance tout de suite, elle va savoir si elle est à la bonne place, c'est-à-dire que si le travail qu'elle fait actuellement est le bon et si en l'occurrence elle est dans le bon chemin, mais que c'est simplement comme j'ai pu avoir, c'est-à-dire que c'est peut-être la sphère professionnelle qui peut poser problème, donc dans ces cas-là c'est juste voir les choses différemment, ou si carrément elle est pas du tout à la bonne place. Et j'ai n'importe quoi, elle est bouchère et en fait elle voulait faire bûcheron quoi. Donc ça c'est dommage, mais voilà, c'est là où en l'occurrence c'est vraiment une restructuration complète que la personne fait. J'ai pas encore eu ce cas extrême et la plupart du temps quand même les gens sont les personnes que j'ai eues ont été la plupart du temps à leur place. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et donc dès la deuxième séance, la personne sait si ce qu'elle fait aujourd'hui c'est ok ou pas. Et ensuite, on a la troisième séance qui, elle, donc théoriquement, tout s'est bousculé en parallèle quand même de des séances. Je fais donc des soins énergétiques, donc qui sont adaptés évidemment à la personne. On va dire que le tronc commun, ça va être vraiment pour booster à justement prendre des décisions, avoir confiance en soi, être à la bonne place, prendre sa place surtout, parce que il y a aussi ce souci-là. Donc avoir confiance, prendre sa place, pouvoir justement oser oser faire les choses, oser passer à autre chose, oser en parler, parce qu'il y en a qui n'osent pas non plus en parler à leur conjoint ou autour d'eux, etc. Donc c'est toujours un peu, c'est pour ça que je dis que cette méthode est adaptée en fait à tout le monde, parce qu'en l'occurrence on peut s'appeler entre midi et deux, juste à la pause déjeuner. On peut, voilà, ce sont pas des séances qui durent très longtemps, donc c'est vraiment elle peut être en train de déjeuner, c'est pas ça qui va me gêner. C'est vraiment pour la personne plutôt, et la plupart du temps c'est assez rare qu'on me dise ah oui, bah là je rentre chez moi, il y a mon conjoint, mes enfants, oui on s'appelle à ce moment-là. Non, les gens veulent vraiment être seuls, parce qu'en fait c'est un moment pour eux, vraiment ça devient un moment pour eux où on ne parle que d'eux, que de leur situation, que de leur façon de voir les choses, que de ce qu'ils pensent réellement au plus profond d'eux, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie, de tout. Et aussi bien en perso qu'en pro. C'est là où on a des petites surprises de temps en temps quand même.
Et donc tu te bases sur des outils et sur des soins que tu fais pendant les séances, en parallèle des séances. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ces outils et ces soins ?
Alors je le fais après la séance, c'est-à-dire que je ne prends pas de temps sur l'échange qu'on a. Le but, c'est vraiment d'échanger complètement sur la personne. Et ensuite, je leur dis, maintenant, je vais faire moi le soin. Donc, en général, j'en ai pour entre une demi-heure et trois quarts d'heure de plus, moi, à titre perso. Mais la personne continue sa vie. Enfin, reprend, on va dire, si c'est entre midi et deux, elle reprend son travail, etc. Comme si de rien n'était. Et ensuite, je lui fais un retour donc sur ce que j'ai fait. On voit ensemble donc effectivement ce tronc commun, et en parallèle un peu plus, ça peut aller un peu au-delà, c'est-à-dire que je vais poser la question de savoir s'il y a des choses que qu'ils veulent voir en plus. Donc j'ai eu effectivement, oui, je pense que j'ai un petit souci avec mes enfants ou avec ma mère ou voilà. Et dans ces cas-là, travailler pour j'ai n'importe quoi, mais couper des liens nocifs, des liens toxiques. Ça peut être aussi dans les sports où là ouais mais bon je fais ça mais c'est très compliqué pour moi parce que j'ai pas confiance et tout, donc ok, ça va être de la confiance donc en règle générale, mais voilà, on peut aussi un peu plus axer et un peu plus aller en profondeur sur certains aspects. Donc c'est à ce niveau-là, et là donc effectivement j'utilise le magnétisme. Donc ce sont différentes techniques qui sont un peu peut-être spécialisées pour ça. Il y a rien de, mais voilà, c'est vraiment un grand nettoyage avec de remettre du positif pour enlever en fait effectivement toutes les, parce que quand on en arrive à m'appeler, c'est qu'il y a quand même beaucoup de négatifs, soit autour de nous, soit en nous, où on ne sait pas, où on est perdu. Donc c'est enlever tout ça pour justement taper du pied par terre et repartir. C'est vraiment ça le but, et j'utilise donc les soins qui se font après. J'utilise donc la numérologie pour savoir ce pourquoi on est fait, en fait. Et j'utilise aussi beaucoup le pendule, donc tout ce qui est radiesthésie, etc., pour des questions peut-être plus précises qui peuvent m'aider moi. La personne n'est pas forcément au courant, mais pour m'aider moi, ça peut me permettre d'avoir des indications sur la personne. De toute façon, tous ces soins, je les fais aussi en parallèle, donc en séance individuelle. Donc, je n'invente rien. C'est-à-dire que si la personne veut après une séance simplement de magnétisme en plus de la méthode, etc., il n'y a pas de souci. Et pareil, si on veut un thème numérologique pour ses enfants ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Je le fais de la même manière. Ça peut être complètement dissocié de la méthode où en fait je globalise un peu tout.
D'accord. Pour quelqu'un qui hésiterait à venir te voir, quels sont selon toi finalement les signes à observer pour comprendre qu'il faut trouver sa voie, qu'il faut reprendre sa place, ou que nous ne sommes finalement pas parfaitement à notre place ?
C'est écouter sa petite voix intérieure. C'est vraiment écouter son intuition. En fait, je parlais de sixième sens, mais les gens n'ont pas conscience que l'intuition, enfin la petite voix qu'on a en nous, notre intuition, est tellement importante. C'est elle en fait qu'il faut écouter, c'est elle qu'il faut avoir vraiment, mais tout le temps avec nous. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'hésitation, c'est-à-dire que c'est pas je suis dans mon frigidaire, j'hésite entre un morceau de fromage ou un morceau de viande. C'est vraiment. Je regarde, je vois, j'ai n'importe quoi, je regarde le journal, je vois une annonce et ah ben ça c'est fait pour moi. c'est cette première pensée qu'on a là qu'il faut suivre. Et c'est ce qu'on suit pas, évidemment, parce que c'est, là, il y a tout de suite, il y a la raison qui revient et qui dit, non, mais attends, tu vas pas faire ça, non, mais comment tu peux, mais c'est pas possible, mais il y a, et si, et en fait, si, c'est là où on se dit, mais si, c'est ça qu'il faut. Et là, aujourd'hui, j'ai eu une dame, justement, qui, elle avait énormément d'intuition, il fallait juste lui dire, et elle me dit, ah bah oui, mais là, en fait, j'y avais pensé, mais, bah oui, mais non. Bah, elle me dit, bah, d'accord. Et en fait, c'est juste avoir cette confiance, avoir suffisamment de confiance pour s'écouter, en fait. Et ça, je trouve ça tellement dommage qu'on... Mais c'est pour tout, en plus. Ça va être pour des gens. On va voir une personne qui va venir à nous dire bonjour. Et on va dire, oh là là, punaise, c'est quoi ce mec?
Ouais.
Mais oui, c'est ça qui... Donc, ça nous empêche pas de lui dire bonjour, évidemment. Mais à un moment donné, c'est se dire, OK, j'écoute juste cette petite voix que j'ai eue. Juste, je fais attention. Et en fait, on se rend compte que, bah ouais, que ce soit dans les amitiés ou même dans le, donc, alors, amical, professionnel, amoureux, il faut quand même écouter cette petite voix. Et s'il y a un petit truc qui nous dit au départ, oup là, ça sent pas très bon, alors on y va parce que si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est juste l'avoir en tête, le laisser un petit peu de côté et se dire, bon, OK, je fais juste attention, je me préserve. Et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de raison que, si on se préserve, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que, c'est garder cette petite voix-là, cette intuition, et toujours l'écouter et qu'elle soit toujours auprès de nous. Et c'est ça le plus important.
Exactement.
Vraiment.
C'est cueillir, en fait, ce tout premier ressenti. Et c'était Géraldine Dormoy que j'avais interviewée sur le podcast, qui, elle, enseigne l'écriture intuitive accueillir justement ce flot de pensée. Et en fait, même si ça nous semble compliqué à faire, peut-être que quand on se lève le matin, on a incarné un stylo et avant même de lancer une réflexion quelconque, on écrit ce qui nous vient.
Exactement. Et l'écriture intuitive, encore une fois, c'est ça, c'est le sixième sens. C'est juste arriver à se vider la tête, poser une question, parce qu'on peut le faire aussi comme ça. On pose une question, on se vide la tête, on pose une question et on laisse aller. Et là, c'est incroyable. Ce qui peut arriver est incroyable. Et je l'ai vu, parce que je l'ai fait en formation, mais je l'ai vu, la fille qui était à côté de moi a écrit 4 copies doubles. Elle ne s'arrêtait plus. C'est-à-dire que même la formatrice s'est dit, bon, là, il y a un loup, je l'ai peut-être loupé, mais elle ne s'arrêtait plus. Et le pire, c'est que tout était cohérent. Donc, voilà, il y a des choses comme ça et il faut pas croire que, enfin, moi, j'aime pas dire qu'on a des dons ou des choses comme ça, parce que pour moi, c'est pas un don. C'est quelque chose qu'on a au fond de nous, mais qu'on travaille ou pas, qu'on a envie de travailler ou pas.
Exactement. Toi, tu utilises des outils comme ça dans tes accompagnements?
Alors, l'écriture intuitive, non. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la visualisation, tout ce qui est visualisation, en fait, qui est de la méditation active. Donc, c'est par exemple, surtout quand on a des pensées négatives, mais c'est par exemple, voilà, on va regarder un arbre, sauf qu'on va le regarder dans son entièreté. On va regarder l'écorce, on va voir qu'elle est un peu jaune, que là, il y a des bourgeons parce qu'il commence à faire soleil. Et en fait, rien que de faire ça, en fait, on médite et on se rend compte qu'on ne pense à absolument rien d'autre. Ça peut être simplement aller acheter du pain, on sort, on a sa baguette de pain, on l'écoute, on voit qu'elle croustille, on regarde la croûte. Et ça peut être ça vraiment dans notre quotidien, de manière à ne pas... entre guillemets, ne pas penser, mais ça nous fait méditer de manière active et donc vraiment être dans l'instant présent. Ça, c'est hyper important. Et aussi, et ça, je sais que c'est dur, c'est compliqué, c'est réussir à canaliser, on va dire, ses pensées négatives. C'est hyper difficile à faire quand on le fait pas, mais c'est arriver à comprendre que, ah, punaise, là, ça, c'est une pensée négative. Donc, déjà, pour en arriver là, il faut quand même un petit peu d'exercice, mais une fois qu'on l'a fait, c'est simplement dire, OK, j'ai pas envie de penser à ça. Ce matin, je me suis engueulée avec mon voisin, etc. Et ça rumine toute la journée. Hop, stop. C'est OK, toi, je pose mon cerveau. Je sais pas, j'écoute de la musique. On fait ce qui nous fait du bien. Donc, j'écoute de la musique ou je chante, je danse, je sais pas, mais quelque chose qui va nous permettre d'arrêter d'y penser. Simplement. Parce qu'en fait, notre mental se régale de nous faire penser à des choses comme ça. Et c'est toute cette pensée négative, en fait, qui nous pollue dans notre quotidien. Alors, qui fait que j'ai du travail aujourd'hui. Mais, en l'occurrence, voilà, ça nous pollue dans notre quotidien. Et ça nous empêche d'avancer, en fait. Clairement, ça nous empêche de saisir des opportunités qu'on aurait pu avoir. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est que, toutes ces pollutions-là, tout cet état d'esprit-là nous empêche d'avancer, vraiment.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ressent le besoin d'aller mieux, mais qui justement hésite à prendre les premières mesures, ou alors ne sait pas par quoi commencer et va se trouver finalement des excuses comme le manque de temps, le manque d'argent et ce qu'on connaît bien finalement?
Bon, d'aller voir mon site. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai fait cette méthode. Alors, ça peut avoir un coût, effectivement. On va dire que la première méthode, je l'ai faite à 350 € pour donc 3 séances. Il y a possibilité d'étaler les paiements. J'ai pas de problème avec ça. Il y a vraiment en fait une prise de conscience en fait qui se fait et qui à un moment donné efface en fait un petit peu tous ces problèmes là. Parce que si on veut s'en sortir, on se donne les moyens. Moi vraiment, je pars de ce principe-là. Quand on veut vraiment s'en sortir, quand on a touché le fond, parce que bon, pour certains, ça arrive aussi comme ça. Quand on a touché le fond, c'est ce besoin réel de retrouver une connexion avec la vie en règle générale. Et d'ailleurs, il y a un dessin animé que j'aime beaucoup pour ça, c'est Saul, avec ce jazzman qui a perdu en fait j'ai envie de dire le goût de vivre. Il a fallu qu'il lui arrive un accident et qu'il rencontre quelqu'un qui, lui, n'avait pas ce goût de vivre pour comprendre qu'à un moment donné, en fait, ça existe. Et donc, ça l'a simplement recentré, ça lui a permis vraiment de prendre conscience qu'à un moment donné, on n'est pas dans un tunnel. En fait, on a le droit de regarder en l'air, on a le droit de regarder à droite et à gauche tous les jours. On a le droit d'aimer sa vie, d'aimer vivre et d'aimer les choses tout simplement, quoi.
Tout à fait. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, peut-être ton principal enseignement de toute cette méthode, de tout ce que t'enseignes aujourd'hui?
Ce que j'aime en fait vraiment, c'est cette transformation en fait que j'amène chez les gens. C'est qu'à la fin, alors je reprends toujours cette fille que j'ai eue et qui m'a dit, mais en fait ça a révélé ce que j'avais au plus profond de moi. Et c'est ça, en fait, c'est tout le but de ce que je fais, c'est révéler ce qu'on a au plus profond de nous. Et alors, elle, ce qui est très drôle, c'est qu'elle était au bon endroit, elle faisait les bonnes choses, mais c'est simplement, elle avait perdu le goût parce qu'elle n'était pas, elle était pas dans une société qui lui plaisait, etc., et que ça l'avait complètement dévalorisée. Et rien que de le fait de savoir qu'elle est à la bonne place, au bon endroit, que tout ce qu'elle fait, en fait, elle l'aime, et donc elle s'est dit, en fait, ça se trouve, je suis pas faite pour ça, et qu'en fait, elle l'était. Ça a mis une autre dimension, en fait, dans sa vie. Et alors, on a trouvé plein d'autres choses aussi en parallèle, mais c'est vrai que c'est une vraie révélation, alors qu'en fait, clairement, elle était à la bonne place, quoi. Donc c'est ça que je trouve magnifique, c'est simplement redonner aux gens le goût de vivre.
Et j'ai une dernière question qui est ma question rituelle du podcast. Que veut dire pour toi devenir acteur de sa vie?
Devenir acteur de sa vie, finalement, ça représente complètement la méthode que j'ai mise en place et finalement la philosophie de vie que j'aime et que je conçois, et pour d'ailleurs tout le monde, que ce soit pour moi ou pour les autres, ça aurait pu être finalement ma devise. Pour moi, réellement, c'est vraiment être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est vraiment faire de sa vie quelque chose qui nous anime, quelque chose qui peut nous réveiller la nuit, où on est content de trouver des nouvelles idées et d'avoir vraiment ce bonheur-là de se réveiller finalement tous les matins. C'est vraiment quelque chose qui va avoir du sens pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment très fière et très heureuse de permettre à des personnes de devenir acteurs de leur vie, justement, grâce à cette méthode. Et du coup, que ce soit d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais que ce soit à n'importe quel âge, parce que finalement on peut commencer en étant au lycée, de la même manière que j'ai eu mes soucis d'orientation à ce moment-là, en étant au lycée pour pouvoir nous orienter vers des études supérieures, pendant nos études supérieures pour pouvoir orienter quand il faut choisir une filière plus spécifique, et après finalement sans limite d'âge. Donc voilà, je trouve ça génial, et être acteur de sa vie représente vraiment ce que je fais aujourd'hui.
Merci beaucoup Clémence.
Merci.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.